par rapport à l'évocation des positions de l'islam naissant vis-à-vis des religions révélées, comme nous l'avons dit, et vis-à-vis du passé païen, à la fois de l'Arabie et des autres sociétés où l'islam s'est répandu, puisque partout où l'islam s'est répandu, il a trouvé devant lui des religions existantes, et ces religions étaient principalement des religions qualifiées de païennes. Et aujourd'hui, il y a une nécessité à reprendre ce problème dans la perspective que j'ai rapidement indiquée, à la fois pour préciser les conditions historiques réelles de l'émergence de l'islam face à ces religions, soit révélées, soit païennes, existantes avant lui, et par rapport aussi à des facteurs de changement de la religion tels que nous les observons aujourd'hui dans les sociétés non seulement musulmanes mais également dans les sociétés chrétiennes, dans les sociétés de tradition chrétienne, juive et autres religions que nous pouvons évoquer, soit en Afrique, soit en Asie.
L'islam a assimilé l'héritage grec et l'a transmis à l'Occident au XIIe siècle. Cette ouverture à la philosophie et à la science grecque est-elle le résultat de la curiosité intellectuelle des musulmans de cette époque, ou bien est-elle enseignée par le Coran et les hadiths?
Je garde cette question, comme toujours, dans sa formulation, parce qu'il est intéressant d'expliciter la position de celui qui pose cette question. Et celui qui pose cette question, en effet, révèle qu'il perçoit l'islam comme on le fait très généralement dans l'opinion occidentale actuelle. On perçoit l'islam comme une réalité globale qui influence la totalité de la réalité historique des sociétés où cette religion s'est imposée, et par conséquent qui peut expliquer par exemple que l'on ait assimilé, comme il y est dit, l'héritage grec. Et de même, il est dit dans cette question que ce succès de l'héritage grec pourrait être dû à l'enseignement du Coran et du Hadith. Il faut corriger évidemment cette perception. En effet, en ce qui concerne l'héritage grec, il faut bien noter qu'il s'est répandu en Proche-Orient pratiquement depuis le temps d'Alexandre. Lorsque l'islam intervient au 8e siècle, au 7e siècle de l'ère chrétienne, à partir donc de 632, de la fondation de l'Empire Omeyyade, l'héritage grec avait déjà une histoire de près de 10 siècles en Proche-Orient, c'est-à-dire c'est un très long moment où la pensée grecque, les sciences grecques ont été diffusées à travers l'espace méditerranéen et donc jusqu'au Proche-Orient, jusqu'en Iran, où il y avait des centres comme Djoundishapur qui étaient des centres d'enseignement de la science grecque et de la pensée grecque, comme également en Égypte, la fameuse Alexandrie, où s'est développée, comme on le sait, bien avant l'apparition de l'islam, une grande connaissance de la pensée grecque et de la science grecque. Et je n'en veux pour preuve de cette expansion de la culture et de la pensée grecque en Proche-Orient que le roman, ce qu'on appelle le roman d'Alexandre, Alexandre le Grand, en effet, a laissé un très grand et vif souvenir dans la conscience populaire, au point que, dans la conscience populaire des sociétés du Proche-Orient, au point que cela a donné naissance à un roman populaire qui est connu sous le nom de roman d'Alexandre. Et ce roman d'Alexandre a véhiculé l'image de ce héros civilisateur qui a été Alexandre, au point là aussi que le Coran lui-même a recueilli cette image d'Alexandre, et il est question dans le Coran, dans la sourate 18, de Dhul-Qarnayn, c'est-à-dire le bicornu, l'homme qui a deux cornes, qui porte deux cornes, et qui est le nom arabe donné à Alexandre. Ceci pour souligner le fait qu'il s'agit d'un phénomène historique extrêmement important dans toute la région du Proche-Orient et que des écoles d'enseignement, des écoles de pensée, des écoles de recherche scientifique, comme on pourrait dire aujourd'hui, ont été développées dans des centres importants du Proche-Orient. Et la théologie chrétienne s'est développée grâce à cette expansion de la pensée grecque dans la langue syriaque. Il y a eu, en effet, bien avant l'islam, une traduction des grandes œuvres de la pensée grecque classique et de la pensée grecque hellénistique, c'est-à-dire la pensée qui s'est développée à partir du 3e siècle avec des philosophes et scientifiques comme Galien, qui va exercer une très grande influence dans la pensée arabo-islamique par la suite, comme également Plotin, l'auteur des Énéades, dont des extraits seront traduits en arabe et qui va exercer également une très grande influence sur le développement de la réflexion philosophique en climat islamique. Cette présence très vivante et très profonde donc, de l'héritage grec en Proche-Orient va tout naturellement se poursuivre lorsque l'état d'inspiration islamique prend en charge le destin des sociétés du Proche-Orient et les chercheurs théologiens chrétiens ou hommes de science chrétiens ont développé cet héritage et l'ont enrichi, comme je l'ai dit, dans la langue syriaque. Et lorsque les Arabes vont intervenir, des traductions qui avaient été faites en syriaque vont être maintenant faites en langue arabe, et c'est ainsi que cet héritage-là va passer à l'arabe, soit par des traductions directes du grec à l'arabe, soit par des traductions du syriaque à l'arabe, et ce sont des Arabes chrétiens comme Ishaq ibn Hunayn et Hunayn ibn Ishaq en particulier, mais il y en a d'autres, mais ceux-là sont les plus connus. Ce sont des chrétiens donc Proche-Orient qui vont s'occuper de ces traductions en langue arabe. Et tout ceci donc se déroule en relation avec une forte tradition historique, et l'islam ne fait que créer un climat d'accueil à ce grand courant de pensée que représente l'héritage grec. L'islam représente un courant d'accueil, mais il ne tarde pas à constituer également un point de résistance à l'héritage grec. Voilà pourquoi, dans la question telle qu'elle est formulée, on ne peut pas dire que l'islam a assimilé l'héritage grec. Il y a effectivement influence très très marquée de la pensée grecque, des cadres de pensée grecque dans la pensée islamique, c'est certain, mais cela s'est fait, si je puis dire, malgré l'opposition continue et assez forte des représentants de la pensée islamique stricto sensu, c'est-à-dire de la pensée qui s'inscrit dans la ligne de l'enseignement coranique et de l'enseignement de la tradition des hadiths. Et voilà pourquoi, à partir du 8e, 9e siècle, surtout sous la période abbasside, nous voyons se dessiner une frontière devenue très importante et très célèbre dans l'histoire de la pensée arabe en ce temps-là, une frontière entre ce que l'on a appelé le ulum al-aqliya, c'est-à-dire les sciences rationnelles, qui justement s'inscrivent dans la continuité de la pensée grecque de sciences rationalistes et conceptuelles, et les sciences traditionnelles, le ulum al-naqliya, qui repose sur le naql, c'est-à-dire la transmission par voie orale, essentiellement la transmission de l'enseignement du prophète et la transmission de tout ce qui a trait à l'enseignement qui dérive du Coran. Et ces deux divisions correspondent à deux familles d'esprit, à deux attitudes de la pensée, et correspondent donc à deux traditions culturelles et intellectuelles qui vont jouer un rôle décisif dans le développement de la pensée arabe, en langue arabe et islamique, parce que d'inspiration islamique et dans le cadre général de pensée islamique, jusqu'à pratiquement jusqu'au XIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à la mort du grand philosophe d'inspiration aristotélicienne que l'on connaît en Occident sous le nom d'Averroès, grand philosophe qui a vécu en Espagne musulmane à Cordoue et également au Maroc au temps des Almohades, et qui marque une sorte d'apogée de la réflexion philosophique et de la science grecque jusqu'au XIIe siècle, et apogée qui se traduit ensuite par la traduction de toutes les œuvres qui existaient en arabe en latin, et c'est ainsi en effet que l'héritage grec va passer par l'intermédiaire de Cordoue et de Tolède en particulier, mais aussi de villes comme Montpellier, où se sont illustrés de grands médecins influencés par la médecine arabe, va être transmis, donc cet héritage va être transmis en latin à la pensée chrétienne occidentale à partir de la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, à la Sorbonne, à Paris, à Oxford et par ces deux grands centres universitaires à l'ensemble de l'Europe. Il y a donc là une trajectoire de la pensée grecque qui est extrêmement intéressante, puisque partie de la Grèce classique au IVe siècle, et même avant le IVe siècle, mais c'est surtout à partir du IVe siècle que la pensée grecque s'est développée, partie de la Grèce donc classique, l'enseignement se répand à travers le Proche-Orient et par l'intermédiaire des musulmans revient vers l'ouest de la Méditerranée et remonte vers le nord de l'Europe, et par conséquent nous avons là, du point de vue de l'histoire, un espace culturel qui est marqué par la même orientation de pensée, le même héritage qui est grec, et qui permet de dire que la notion d'Occident que l'on utilise aujourd'hui, par opposition à la notion d'islam qui est considérée comme quelque chose de tout à fait extérieur à l'Occident, cette notion-là est idéologique, elle n'est pas historique. Puisque aussi bien la pensée occidentale qui a pris en charge donc l'héritage grec, gréco-romain, que la pensée islamique qui du 7e siècle jusqu'au 12e siècle a pris en charge ce même héritage, les deux se sont donc développés sur le même fond de culture, le même fond de pensée, les mêmes cadres conceptuels, les mêmes procédures qui ont influencé le développement de la théologie chrétienne d'un côté, de la pensée juive aussi en relation avec, on peut remonter jusqu'à Philon d'Alexandrie qui a été très influencé par la pensée grecque et qui a présenté donc le premier, une sorte de réflexion à l'intérieur ou prenant en charge l'héritage juif, l'héritage biblique, depuis donc ce temps-là jusqu'à Averroès, et ensuite par l'intermédiaire de saint Thomas d'Aquin, des penseurs chrétiens médiévaux, nous avons exactement la même interpénétration, la même tension aussi, tension d'opposition entre un enseignement d'origine révélée, un enseignement d'orientation judéo-islamo-chrétienne dans la ligne du phénomène du livre, du phénomène de la révélation, que l'on peut appeler, si l'on veut, la tradition sémitique, face à la tradition grecque représentée donc par cet héritage grec qui parcourt l'ensemble de ce qu'on peut appeler l'espace gréco-sémitique, espace gréco-sémitique qui géographiquement s'étend de l'Indus, le fleuve Indus, qui est la limite entre l'Iran et l'Inde, depuis l'Indus jusqu'à l'Atlantique. Cet ensemble géographique est profondément travaillé par les deux grands axes, donc de la pensée, de la réflexion, de la culture, que ces deux grands axes que représentent à la fois la pensée grecque à tendance rationalisante ou rationnelle et la pensée religieuse d'origine sémitique qui utilise ce discours religieux à fondement symbolique et mythique comme nous l'avons expliqué. Cette perspective très rapidement tracée permet là encore de corriger un grand nombre de préjugés sur les frontières qui séparent, dans la présentation qui est faite de l'histoire de la pensée, qui séparent le monde islamique de ce que l'on nomme aujourd'hui l'Occident. Lorsque, en effet, on voit comment dans les universités d'Occident, depuis pratiquement que l'Occident a reçu cet héritage grec par l'intermédiaire des Arabes, on voit comment dans les départements d'histoire de la philosophie, on passe de la Grèce classique ou de la Grèce hellénistique à l'Europe à partir du XVIe siècle, à la pensée occidentale telle qu'elle s'est développée à partir du XVIe siècle. On fait un grand saut depuis Aristote et Platon jusqu'à Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant et les grands philosophes de l'Occident moderne, de la rationalité dite moderne à partir du XVIe siècle. Et on passe par-dessus pratiquement près de 16 siècles d'histoire de la pensée qui se sont développées en tenant compte à la fois de l'héritage sémitique dans la ligne de ce que nous appelons les Écritures saintes ou la Révélation, et dans la ligne de ce que nous appelons la pensée grecque. Et ce saut par-dessus le Moyen-Âge, ce qu'on appelle en histoire occidentale le Haut Moyen-Âge et le Bas Moyen-Âge, est une attitude essentiellement idéologique, partisane, qui est liée d'abord au phénomène de la pensée chrétienne, qui théologiquement avait intérêt à éliminer, marginaliser tout ce qui s'est développé sous le signe de l'islam, parce que l'islam est un concurrent sur le plan de la révélation et sur le plan de la théologie et de toute la réflexion théologique. C'est un concurrent du christianisme, il fallait donc l'éliminer, et on sait l'image très défavorable et très négative qui s'est imposée dans la tradition chrétienne au sujet de l'islam. Et également à partir du moment où l'Occident sécularisé, l'Occident moderne prend son essor à partir du XVIe siècle et plus encore à partir du XVIIIe siècle, la pensée occidentale positive, scientifique, soulevée par le grand phénomène de ce que Fernand Braudel a décrit sous le nom de civilisation matérielle, c'est-à-dire l'industrialisation, le grand phénomène capitaliste. Soulevé par ces deux grands phénomènes, la pensée occidentale s'est répandue dans le monde avec le grand mouvement colonial, et on voit ainsi la pensée dite moderne relayer la pensée chrétienne du Moyen-Âge pour exclure et marginaliser tout ce qui s'est développé en relation avec l'islam pendant les siècles d'émergence et de formation de la pensée islamique classique, pour en arriver à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une situation d'exclusion de l'islam en tant que phénomène historique, en tant que phénomène de en tant que facteur de civilisation dans l'espace méditerranéen, et de présenter l'islam comme quelque chose d'oriental, comme quelque chose d'étranger à l'Occident, ce qui, encore une fois, ne correspond pas du tout à la réalité historique. Nous vivons par conséquent dans une imagerie de l'histoire générale de la pensée, imagerie qui est renforcée de façon exceptionnellement révoltante et même, en un sens, désespérante par la continuité de cette frontière rigide qu'introduisent en particulier les philosophes actuels, qui enseignent encore une fois la philosophie de la manière que j'ai dit, mais aussi les historiens. Car si l'on va dans les départements d'histoire, dans les universités de France, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Amérique et dans toutes les universités d'Occident, eh bien, l'histoire du monde méditerranéen n'est pas encore faite dans la ligne pourtant très fortement illustrée, très clairement dessinée dans les travaux de Fernand Braudel et dans sa thèse magistrale sur la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Cette thèse, bien sûr, a touché un grand nombre d'esprits et a touché l'enseignement de l'histoire, c'est certain, on ne peut pas minimiser cela, mais cela ne se traduit pas encore dans la conception des programmes dans les départements d'histoire par une vision intégrée et intégrante du grand mouvement de civilisation qui marque toutes les rives de la Méditerranée, la rive sud et nord, la rive est et ouest, et qui fait que cet espace, en réalité, devrait être présenté à la fois dans cette perspective continue qui part depuis Abraham jusqu'à Mohammed pour dessiner cette longue perspective de ce que l'on nomme en théologie l'histoire du salut, et en ce qui concerne l'histoire plus positive de la pensée grecque, de la science grecque, il y a une ligne qui part également depuis les temps les plus anciens de l'histoire de cette pensée, depuis les pré-socratiques, mais principalement depuis la période hellénique, et qui continue, comme je l'ai dit, pratiquement jusqu'à nos jours, sans interruption, avec des relais différents. Il importe donc de faire une révision très importante de cette histoire de la pensée, à la fois pour corriger les excès à la fois théologiques et positivistes idéologiques en relation avec la grande aventure coloniale de l'Occident, et corriger de la même façon ce qui s'est produit du côté musulman vis-à-vis de cet héritage grec, car à partir de la mort d'Averroès, à partir de la fin du XIIe siècle, l'islam lui aussi a exclu de ses horizons intellectuels et culturels cet héritage grec, qui est présenté comme une science et une pensée étrangère à l'islam. Et c'est le triomphe de l'orthodoxie musulmane, c'est le triomphe de la scolastique musulmane qui conserve un certain nombre d'influences sous la forme de concepts éthiques, par exemple, sous la forme aussi d'une logique très fortement influencée par la logique aristotélicienne, parce que les grands penseurs jusqu'au XIIe siècle avaient utilisé ces cadres de pensée, mais qui officiellement, par la formulation explicite de sa théologie, exclut cet héritage grec. Il n'est plus enseigné effectivement dans les écoles, et la pensée grecque, qui a joué donc ce rôle fondamental dans la période de formation et d'expansion de la pensée islamique, est devenue un phénomène marginal, et actuellement il est même devenu un phénomène absent. Donc là aussi, du côté du développement de la pensée islamique, il y a lieu à une intervention, au même titre qu'il y a lieu à une intervention du côté occidental, pour corriger, encore une fois, des développements essentiellement idéologiques qui se sont faits de part et d'autre, du côté islamique comme du côté occidental, vis-à-vis du phénomène culturel global qui s'est imposé dans l'espace méditerranéen et qui fait l'originalité de cet espace méditerranéen. Cette perspective historique que j'essaie de dessiner a un rapport direct avec la situation, je dirais, stratégique dans l'espace méditerranéen aujourd'hui. En effet, cet espace méditerranéen a fait l'objet d'une compétition économique et politique sévère, notamment depuis l'apparition de la puissance ottomane au XVIe siècle. Les Ottomans et l'Occident se sont disputés le contrôle de cet espace, mais déjà au temps de l'islam classique, il y a eu des disputes pour le contrôle de cet espace. Je pense par exemple au phénomène des croisades. Mais à partir du XVIe siècle, cette dispute n'a jamais cessé de se développer et a fini par se résoudre au bénéfice de l'Occident. Et l'Europe a contrôlé l'espace méditerranéen jusqu'à l'apparition de la puissance américaine, surtout depuis la Première Guerre mondiale, qui va prendre peu à peu pied dans cet espace méditerranéen. Et aujourd'hui, tout le monde sait que cet espace méditerranéen est contrôlé par la 7e flotte américaine. Et quand je dis la 7e flotte américaine, il y a toute la géopolitique de l'espace méditerranéen qui fait que cette région est complètement sortie non seulement de ce qui fait son caractère historique culturel fondamental, comme je l'ai expliqué, en relation avec les deux grands héritages, les deux grands axes de la pensée et de la culture qui représentent le monde de la révélation et le monde de la pensée grecque. Non seulement il est sorti de cet héritage, mais il est sorti également de l'orbite européenne. Il est sorti de l'héritage européen classique proprement dit, pour devenir un espace complètement abstrait, complètement satellisé à une culture, à une forme de culture qui est la culture technologique contemporaine, essentiellement contrôlée par les grands centres producteurs de la technologie contemporaine. Ceci est un problème à la fois de stratégie de puissance entre les grandes puissances pour contrôler les espaces, donc un grand problème de géopolitique, mais un grand problème de géopolitique qui a des conséquences extrêmement importantes sur l'histoire culturelle à la fois de l'espace méditerranéen et de l'espace européen classique, en tant que cet espace européen classique est lui-même profondément lié à l'héritage chrétien, donc à l'héritage proche-oriental tel qu'on doit le définir dans la perspective biblique, évangélique et coranique, et dans l'espace de la pensée grecque classique, tel que aussi on doit la définir en revenant à, aux sources essentielles de cette pensée. Voilà donc un autre point que je considère comme névralgique et qui doit revenir au premier plan de notre vision de l'histoire de cet espace, non seulement pour corriger des erreurs historiques et des fausses perspectives historiques qui sont imposées et perpétuées par les enseignements à la fois dans la tradition européenne actuelle et dans la tradition islamique, mais pour reposer de la manière la plus forte et à travers justement le ressurgissement de l'islam et à travers la protestation de l'islam actuel contre l'Occident d'une façon générale, pour reposer le problème des métamorphose du sens, et à travers ces métamorphoses du sens, le problème de la déperdition du sens dans la tradition de pensée européenne la plus classique et la plus fondamentale, aussi bien que dans la tradition de pensée islamique ouverte telle qu'elle s'est affirmée et elle s'est répandue dans l'espace méditerranéen dans la période classique de formation de cette pensée du 7e au 12e siècle. Ceci est une perspective fondamentale. On entend dire un peu partout aujourd'hui dans les occidentaux que les sociétés occidentales sont guettées et même minées par ce que les sociologues appellent l'anomie. L'anomie, c'est l'absence totale de référence dans une société. C'est une société qui ne peut plus identifier quelque part une ligne directive qui permettrait de donner un sens aux activités de la société pour produire sa propre histoire. Et cette anomie, qui est le plus grave danger qui peut menacer une société, est liée à ces coupures fondamentales que j'ai dessinées, coupure de la pensée islamique par rapport à la pensée grecque pour développer une scolastique extrêmement limitée, coupure de la pensée européenne par rapport à des origines sémitiques qui continuent à jouer un rôle de plus en plus marginal et réservé à ce qu'on appelle la croyance religieuse chez les chrétiens, coupure de l'espace méditerranéen vis-à-vis de son passé et intervention massive, généralisée, d'une pensée qui est essentiellement pragmatique, fonctionnaliste, liée au triomphe de ce que l'on appelle aujourd'hui la technologie. Ces phénomènes-là touchent en profondeur au destin essentiel des religions révélées, avec tout ce que ces religions révélées ont apporté en mise en place en matière justement de l'histoire, de ce que j'appellerais l'histoire du sens. Et le sens comme dimension essentielle de notre activité historique, de production de notre destin historique. Ceci est tout à fait essentiel, évidemment, pour l'islam, qui subit avec encore plus de dommages que l'Occident lui-même les effets ravageur de cette pensée qui se coupe progressivement de cette tradition. Voilà les réflexions et aussi une sorte de programme d'action et de programme de réflexion que doit ouvrir toute reprise. Une précision encore en relation avec la deuxième partie de la question où il est dit que cet intérêt pour la philosophie et la science grecque pourrait être le résultat de la curiosité, soit de la curiosité intellectuelle des musulmans de cette époque, soit de l'enseignement direct du Coran et du Hadith. On ne peut pas dire que les musulmans de l'époque classique étaient plus intelligents que les musulmans d'une autre époque. Je ne pense pas que le problème réside réside à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est de regarder les conditions historiques différentes dans lesquelles se sont trouvés les musulmans à partir du XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Ces conditions historiques ont été en effet marquées par un recul de l'État musulman, un recul de ce qui avait constitué jusque-là le phénomène de l'Empire, avec toutes les conséquences économiques, politiques, et donc les possibilités de développer une culture et une pensée autonome et dynamique. À partir du XIIe siècle, en effet, le cœur de la civilisation arabo-islamique qui s'était développée jusque-là, c'est-à-dire l'ensemble du Proche-Orient à partir de l'Iran jusqu'à l'Andalousie, se trouve soumis à des pressions conjuguées venant à la fois de l'extrême Est, avec les Turcs Seljoukides d'abord, et ensuite les Mongols venus de Mongolie, et qui ont provoqué la chute du califat abbasside en 1258. On peut remonter aussi jusqu'aux croisades avec au XIe siècle qui ont marqué le début de la pression venue cette fois-ci de l'Occident. Pression venue de l'Occident non seulement avec le phénomène des croisades mais également avec le grand phénomène de la reconquista espagnole à partir toujours du XIe siècle. Ce qui fait que la puissance politique et économique de l'Empire musulman a reculé progressivement et n'a cessé pratiquement de reculer jusqu'au XIXe siècle. Donc ce sont les conditions économiques et politiques de cet espace musulman qui changent et qui font que l'islam va être de plus en plus réduit à la défensive et non plus occuper la position offensive et la position de souveraineté qu'il avait occupée jusque-là. Et c'est à ce moment-là que nous voyons ressurgir, revenir à la surface tout un substrat religieux, culturel qui était celui des tribus, des organisations sociales et politiques propres aux sociétés couvertes par l'islam et qui n'avait pas évidemment subi suffisamment de transformations au temps de l'Empire. Et on voit par exemple au Maghreb l'importance des régimes tribaux, l'importance des autonomies tribales qui exercent une influence négative sur l'État qui perd de plus en plus le contrôle de l'espace social et politique. Et c'est ce qui explique le fait que, par exemple, à partir de Averroès, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sciences d'inspiration rationnelle reculent parce que les cadres sociaux, les groupes sociaux, en particulier le groupe des marchands, qui constituait un groupe social dynamique et important dans les grandes villes islamiques pendant la période classique, ce groupe des marchands pratiquement disparaît parce que l'initiative du commerce va passer à l'Occident et donc les richesses qui affluaient dans les villes musulmanes va progressivement affluer vers les villes occidentales et ainsi les cadres sociaux qui demandaient et activer une connaissance de type rationnel vont s'affaiblir Et c'est ainsi que s'explique, au contraire, la montée du mysticisme, la montée de la religiosité populaire, la montée de ce que du phénomène que l'on appelle les confréries religieuses jusqu'au XIXe siècle. Et ce sont en effet des chefs religieux d'inspiration religieuse qui vont prendre en charge des groupes extrêmement diversifiés et séparés en relation avec les formations tribales. Et donc, le pouvoir se disperse exactement comme la société est dispersée, sous forme d'autonomie tribale, d'unité sociale de plus en plus réduite, et on s'éloigne d'autant, par conséquent, d'une forme de culture qui, au contraire, dans la période classique, était soutenue par l'État et par une élite d'intellectuels gravitant autour de l'État et également par cette classe de marchands qui vivaient dans les villes, car c'est un phénomène essentiellement urbain lié aux villes. Ceci, très rapidement esquissé, est une explication sociologique de l'amenuisement et de la disparition progressive d'une forme de la connaissance liée à la philosophie et à la science positive, au rationalisme. Et voilà pourquoi, à partir de la mort d'Averroès, il faut essayer de faire ce que j'appelle une sociologie de l'échec, une sociologie de l'échec des grands penseurs qui sont apparus en islam à partir du XIe, XIIe siècle. Le premier grand échec retentissant qui mérite d'être considéré sous cet angle d'une recherche sociologique qui expliquerait le recul de la force intellectuelle de la pensée islamique, c'est précisément Averroès. Quand, d'abord, Averroès, pendant sa vie, a été mis en prison sous l'attaque des théologiens et des juristes qui contrôlaient l'orthodoxie déjà en son temps. C'est dire, par conséquent, à quel point l'opposition à laquelle j'avais fait allusion entre une pensée religieuse et une pensée rationaliste d'inspiration grecque était très forte. Quand Averroès meurt, la philosophie d'inspiration grecque pratiquement va non pas disparaître complètement du jour au lendemain, mais en tout cas rentrer dans une sorte de vie souterraine. Et elle va s'affaiblir de plus en plus parce que les cadres sociaux, encore une fois, capables de tirer parti de ce type de connaissances, de ce type de recherche, sont devenus eux-mêmes de plus en plus faibles. Et au contraire, les cadres populaires qui avaient une demande beaucoup plus forte pour une religion populaire, ceux-là prennent de l'importance. Et c'est ainsi donc qu'il y a un échec de cette civilisation et de cette culture d'inspiration scientifique. Au contraire, lorsqu'on voit la façon dont la pensée d'Averroès, l'œuvre d'Averroès, a exercé une influence en Occident à partir du XIIIe siècle, au point que le courant connu sous le nom d'Averroïsme en Occident a provoqué la condamnation de l'Église, tellement il avait réussi. Donc là, il faudrait faire une sociologie de la réussite. Pourquoi est-ce que Averroès, la pensée d'Averroès, ce qu'on a appelé l'Averroïsme, a connu un tel succès du côté occidental au XIIIe siècle, au moment même où, au sud de la Méditerranée, car je rappelle qu'Averroès est un maghrébin, c'est un occidental, andalou maghrébin, au même moment, l'Averroïsme subit des attaques et subit un retrait dans la société musulmane. Alors là aussi, il faut élargir notre curiosité historique pour faire non seulement cette histoire qui relate simplement les événements en disant que la philosophie se retire sans que l'on sache pourquoi, mais faire ce qu'on fait maintenant en histoire, la sociologie historique, c'est-à-dire interroger la société, décrire les groupes sociaux en présence, les forces sociales en présence et la manière dont les facteurs d'évolution de ces groupes sociaux exercent leur influence et la manière aussi dont les nouveaux groupes sociaux influent sur le destin des grands courants de pensée, comme le destin du courant de pensée religieux et le destin du courant de pensée rationaliste. Et alors on comprend pourquoi des penseurs comme un autre grand penseur en relation avec cette problématique que je dessine, c'est Ibn Khaldoun, qui est un maghrébin aussi, qui a vécu au XIVe siècle, qui a été l'auteur d'un très grand ouvrage qui tient à la fois de ce que nous nommons aujourd'hui la sociologie, justement, qui explique les mécanismes d'évolution historique des sociétés musulmanes, et en même temps qui fait l'histoire générale de l'islam dans cette perspective explicative neuve. Et bien ce grand historien penseur qui a écrit un ouvrage qui exerce maintenant une très grande influence depuis le 19e siècle est pratiquement oublié à l'intérieur de la tradition maghrébine elle-même, c'est-à-dire qu'il n'a guère exercé d'influence sur l'enseignement de l'histoire depuis le 14e siècle jusqu'en 1840-1850, date à laquelle son œuvre a été éditée par la première fois par l'orientaliste Quatremer, un arabisant français, et traduite en français par un autre arabisant, le baron de Slane. Voilà des exemples donc qui doivent être pris aujourd'hui pour renouveler l'histoire de la pensée à l'intérieur des pays musulmans, mais en corrélation historique avec le développement de la pensée du côté occidental, et non pas de façon cloisonnée et isolée, qui présente une pensée d'un côté et une pensée de l'autre, parce que le destin de ces pensées est lié à l'évolution générale sur le plan politique et économique, à l'évolution générale des sociétés dans le monde méditerranéen.
Question 13. L'islam, la science et la philosophie. Quel est le rapport entre la théologie et le savoir?
Oui, j'ai déjà amorcé une réponse, un début de réponse à cette question qui est dans le prolongement de la précédente. D'abord, la science et la philosophie ne se séparent pas pratiquement avant le XVIe siècle. Chez les Grecs, comme chez les Arabes, la science et la philosophie ont un même destin, et elles sont pratiquées par les mêmes grands esprits, les mêmes penseurs. Par exemple, la médecine ne peut pas se séparer de la philosophie. Les grands médecins, comme Galien, et chez les Arabes, grands médecins comme Avicenne et comme Averroès, dont je viens de parler, ils sont inséparablement de grands médecins et de grands philosophes. Or, la médecine, en ce temps-là, implique toutes les sciences naturelles. Et elle implique même l'étude des sciences astronomiques. Il y avait aussi l'alchimie. L'alchimie qui est à la fois branchée sur l'expérience, les recherches en laboratoire, et une spéculation philosophique à partir des recherches alchimiques faites en laboratoire. Par conséquent, la science médiévale, comme la science grecque, n'est pas séparable de la philosophie. La frontière donc devient une frontière entre la religion ou le regard religieux sur le monde et sur la connaissance et le regard, disons, philosophico-scientifique sur le monde et sur la connaissance. C'est là qu'il faut rechercher une frontière. Cette frontière effectivement a existé. Et cette frontière peut être décrite à un double niveau. À un niveau profond qui concerne les rapports entre la langue et la pensée, en ce sens que l'expression des connaissances par l'esprit se fait à l'aide d'un matériel symbolique et métaphorique lorsqu'on est dans le contexte religieux. Et cette expression de la connaissance est adressée beaucoup plus à l'imagination et, je dirais, à une sorte d'instance affective de notre sensibilité qui adhère à ce qui nous est offert en tant que connaissance sous une forme symbolique, donc pour la dimension religieuse, et qui devient un objet de foi, qui devient un objet de croyance, et qui se trouve traduit concrètement dans notre existence par nos conduites éthiques, juridiques, politiques, en relation avec ces représentations qui symbolisent le sens pour nous à l'intérieur de la religion. C'est ainsi que procède, si l'on veut, la pensée religieuse et tout ce qui a trait donc à la dimension religieuse. De l'autre côté, parallèlement à cela, se développe également un autre discours qui rend compte de nos connaissances, et cette fois-ci en utilisant un appareil conceptuel forgé par la raison, raison qui essaye de faire passer dans les mots, les concepts, des réalités qui sont plus ou moins analysées par la raison, perçues d'une manière concrète par la raison. Je dis plus ou moins parce que cette connaissance de type scientifique va être liée à l'expérience. C'est-à-dire que la raison essaye de fonder ce dont elle parle sur une expérience directe, une expérience concrète. Donc la pensée scientifique se déroule en relation, davantage en relation avec l'expérience directe, tandis que l'expérience religieuse est davantage liée à la perception que nous avons du monde à travers les récits mythiques, à travers les discours religieux qui remontent très loin dans le passé. Et c'est parce qu'il y a cette différenciation au niveau des rapports entre la langue et la pensée. C'est parce que d'un côté nous utilisons une formulation de type symbolique et de l'autre côté une formulation de type conceptuel, que d'un côté c'est une relation de l'imaginaire avec le réel et que de l'autre côté c'est une relation éprouvée, contrôlée avec de la raison avec les réalités, c'est parce qu'il y a cette différence de procédure et cette différence du regard que nous avons affaire effectivement à une différenciation entre la connaissance de type religieux et la connaissance de type dit scientifique et philosophique. Ça, c'est le niveau profond. Et ce niveau profond, tel que je viens de le décrire à dessein, en termes d'analyse générale, ne concerne pas seulement l'islam. C'est-à-dire que nous allons trouver exactement la même différenciation si nous nous intéressons, par exemple, au développement de la pensée religieuse dans le judaïsme, ou dans le christianisme, ou dans le bouddhisme, et dans d'autres religions. C'est donc un phénomène très général. Et la pensée rationnelle et scientifique de l'autre côté poursuit son destin de la manière que j'ai dit. La deuxième différenciation se fait au niveau du politique et au niveau des cadres politiques et socio-économiques d'expression de ces deux lignes de la connaissance. Le phénomène politique, c'est le phénomène de l'État, je crois en avoir déjà parlé précédemment. En effet, l'État va se servir simultanément des deux types de connaissances. Il va se servir aussi bien de la religion, du discours religieux pour légitimer le pouvoir politique, comme je l'ai dit, et il va se servir de la même façon de la connaissance scientifique qui permet de créer le cadre matériel de civilisation sur lequel l'État s'appuie également pour exercer son contrôle politique et social sur les sociétés. Et c'est ainsi que les deux formes de la connaissance continuent de coexister d'une manière plus ou moins pacifique selon les conjonctures historiques et selon les cadres sociaux de la connaissance, comme je l'ai expliqué. Tantôt c'est la ligne religieuse qui va prédominer et tantôt c'est la ligne rationnelle, scientifique qui va prédominer. C'est ce que nous constatons dans les différentes phases de l'histoire de l'islam, c'est ce que nous constatons aussi en Occident, si nous comparons le type de connaissance médiévale au type de connaissance qui se développe après le XVIe siècle. Alors, on peut, dans cette perspective-là, ajouter quelques mots sur le rapport entre la théologie et le savoir. La théologie, justement, a exercé une suprématie au Moyen-Âge. Elle a été considérée comme la science, entre guillemets, ou l'activité de connaissance par excellence, parce que c'est la théologie qui introduit une cohérence, ou essaye d'introduire une cohérence rationnelle dans ce discours religieux qui est considéré comme le discours de vérité, qui dit toute la vérité sur le monde, sur l'homme, sur Dieu, sur la réalité, puisque cette vérité dérive de ce que Dieu lui-même a enseigné. La théologie se trouve donc à un point tout à fait privilégié par rapport aux autres activités de connaissance, puisque c'est elle qui va créer le cadre de la connaissance vraie. Et c'est à l'intérieur de ce cadre de la connaissance vraie d'essence théologique que viendront s'inscrire les autres connaissances que fabriquera la raison qui est humaine et qui, par définition, doit se trouver sous la dépendance et sous l'éclairage de l'enseignement divin. Donc, tant que prédomine une église, tant que prédomine une référence à la religion, comme c'est le cas à la fois chez les chrétiens au Moyen-Âge et chez les musulmans, puisque la loi religieuse musulmane, la charia, représentée par les docteurs et appliquée et explicitée, enseignée par les docteurs, constitue la référence obligatoire pour l'État et par conséquent pour tous ceux qui travaillent à l'intérieur d'un espace politique ainsi lui-même soumis au contrôle du magistère théologique. Tant que les choses demeurent ainsi, nous savons que les initiatives scientifiques que pouvaient prendre des philosophes ou des hommes de science étaient nécessairement et immédiatement contrôlées, c'est-à-dire soit approuvées, soit condamnées par le magistère doctrinal théologique. Ici, il suffit de penser à Averroès que je viens de citer, mais à d'autres penseurs dans le cas de l'islam qui ont été traités d'hérétiques, d'ennemis de l'enseignement religieux, etc. Soit dans l'Église, à ce qui s'est passé au Moyen-Âge, la poursuite des sorcières, et jusqu'à l'aventure de Galilée, et jusqu'à l'aventure même de gens comme Rousseau, comme Voltaire, et comme d'autres penseurs qui ont plus ou moins touché justement à ce qui est considéré comme l'enseignement théologique orthodoxe. Alors, on voit comment ce contrôle, qui se présente sous les traits d'un contrôle essentiellement intellectuel, d'un contrôle essentiellement de la raison théologique sur l'ensemble des savoirs développés par des hommes en relation avec la raison, comment ce contrôle est également lié aux intérêts de l'État qui, comme je l'ai dit, a partie liée avec cette orthodoxie. Et on voit aussi comment la lutte de la raison pour échapper à ce contrôle va être une lutte liée à la montée du politique, aux efforts pour la conquête de l'autonomie du politique, conquête de l'autonomie du politique qui est elle-même liée à la conquête d'une autonomie de l'économique. Ici aussi, je touche à quelque chose de décisif pour comprendre la différence de destin historique entre l'islam et l'Occident, comme on dit. Je n'aime pas ces expressions, mais je les emploie pour ce qu'elles sont. Elles désignent des secteurs fabriqués par les développements et les perceptions idéologiques de ces deux espaces. La différence de destin historique est liée au fait, essentiellement, que dans l'Occident, il s'est trouvé une possibilité historique pour qu'une classe sociale de marchands, d'abord, ensuite de ce qui deviendra la bourgeoisie capitaliste, va pouvoir conquérir cette sphère autonome de l'activité économique, qui sert elle-même de tremplin pour la conquête d'une autonomie de la sphère politique sous la Révolution française. Grâce à la continuité historique de cette classe et des luttes menées par cette classe, en partant des municipalités, des luttes à l'intérieur des municipalités pour l'autonomie dans les municipalités par les marchands au Moyen-Âge occidental chrétien, jusqu'à la montée du capitalisme au XVIIIe siècle, jusqu'à la Grande Révolution française, et à tout ce qui s'en est suivi à partir de la Grande Révolution française, où l'autonomie du politique et de l'économique se trouve contrôlée, se trouve prise par cette même bourgeoisie jusqu'à nos jours pratiquement, avec le grand intermède du prolétariat, etc. Donc ce grand mouvement de l'histoire, où, encore une fois, le contrôle de la sphère économique et de la sphère politique conditionne l'évolution ou la marche vers une autonomie de la raison dans l'ordre de la connaissance, autonomie par rapport au contrôle du magistère doctrinal, cette évolution-là s'est accomplie en Occident, et j'en donne évidemment une évocation extrêmement rapide qui demande à être affinée, analysée, etc., mais n'a pas pu se dérouler du côté musulman. Parce que du côté musulman, à partir du 10e, 11e siècle, la classe des marchands qui a constitué au 9e, 10e siècle dans les grandes métropoles islamiques une bourgeoisie incoative, c'est-à-dire un début de formation justement d'une classe qui pouvait jouer ce rôle qu'a joué la bourgeoisie en Occident, cette bourgeoisie-là a avorté du côté musulman à partir du XIe siècle. Elle n'a pas pu continuer à jouer le rôle qu'elle a pu jouer au IXe, Xe siècle, où elle a pu servir de cadre au développement de cette pensée philosophique et scientifique dont on a parlé tout à l'heure. Et à partir du XIe, XIIe siècle, donc, il y a eu dispersion des forces sociales et il y a eu pratiquement élimination de cette bourgeoisie incoative, et c'est ce qui explique l'affaiblissement de cette autonomie de la raison qui a fait le succès du rationalisme et de la science du côté occidental. Et cela dure malheureusement jusqu'à nos jours. Et c'est ce qui fait que de nos jours, nous assistons à une sorte d'envahissement d'une pensée d'essence idéologique, d'une pensée d'essence mythologique, parce que, comme je l'ai déjà noté précédemment, les cadres sociaux de la connaissance dans les sociétés musulmanes actuelles ont été bouleversés plus qu'ils ne l'ont jamais été dans l'histoire de ces sociétés par l'apparition très rapide, en très peu de temps, en une trentaine d'années, d'une population extrêmement jeune qui échappe à toute participation à cette perspective historique, à cette longue marche justement de la raison telle qu'elle s'est déroulée à la fois du côté islamique et du côté occidental. Si bien qu'aujourd'hui, la réflexion théologique en islam, par exemple, est pour ainsi dire inexistante. Et là aussi, il ne faut pas se faire d'illusions lorsque on parle du réveil de l'islam. En fait, il s'agit d'un renforcement des forces sociales qui animent des revendications d'essence politique, et non pas d'un réveil de ce discours religieux que j'avais présenté tout à l'heure, d'un réveil donc d'une curiosité pour une connaissance moderne du phénomène religieux, et ça n'est pas du tout donc un renouveau d'une connaissance théologique, ça n'est pas un renouveau d'une pensée religieuse, c'est essentiellement l'expression d'une masse sociale extrêmement jeune qui a des revendications politiques, des sens politiques à faire valoir. La théologie a également perdu du terrain du côté chrétien et occidental, à la fois sous l'influence du phénomène de la laïcité ou de la sécularisation, comme on dit, et sous l'influence aussi d'une expansion considérable de la sphère de la raison scientifique et technologique. Et la théologie devient beaucoup plus modeste, elle essaye cette fois-ci de s'informer, de se renforcer au contact de la raison scientifique qui pratiquement a conquis, en Occident maintenant, a conquis le magistère sur la vérité, magistère sur la vérité lié à ce que nous appelons la science. Mais en même temps, la raison, qui a toujours la vocation de faire des retours critiques sur elle-même, est en train de découvrir que ce magistère qu'elle a cru exercer depuis le 18e, 19e siècle en tant que raison souveraine,